française et elle était ambassadeur de France en Géorgie quand il y a eu la Révolution des Roses. Et à l'époque, le président de l'époque a demandé au président français de l'époque, Jacques Chirac, s'il pouvait emprunter, entre guillemets, son ambassadeur. Et donc, ma mère est devenue ministre des Affaires étrangères à l'époque, puis elle est restée en politique. Et le point final de tout ça, c'est qu'elle est devenue présidente et elle a donc dû renoncer à sa nationalité française et devenir totalement géorgienne.
Ah,
Voilà.
elle n'a plus la double nationalité.
Elle n'a plus la double nationalité aujourd'hui, mais elle est toujours très française, notamment par ses enfants.
Incroyable, quelle histoire, quelle
Génial.
histoire. Et le lien avec la Géorgie n'a jamais été rompu. La Géorgie, les Géorgiens eux-mêmes l'appellent le petit paradis. Alors souvent, les peuples appellent leur propre pays un petit paradis, mais il y a une légende que j'adore, c'est la légende sur la création de ce pays. Vous la connaissez, j'imagine?
Oui, c'est une sorte de légende, une histoire que se racontent les Géorgiens en général quand ils parlent de à quel point la Géorgie est extraordinaire et la plus belle et le meilleur pays du monde. Et cette légende veut que quand Dieu créa le monde et qu'il décidait de distribuer les terres aux différents peuples, alors il y a des petites différences dans les histoires qui sont racontées, mais il y a une version de l'histoire qui dit que les Géorgiens étaient en train de faire la fête
Comme souvent.
et que donc, comme souvent, exactement, et que donc ils ont un peu raté le coche dans la distribution des terres par Dieu. Et que donc ils se sont retrouvés sans rien. Et quand ils sont allés voir Dieu en disant, bah non, on n'a pas de terre. Et Dieu leur a donné en fait le territoire qui s'était réservé pour lui, donc par définition le meilleur, le plus beau. Et c'était ce petit paradis qui est resté pour les Géorgiens.
Ça, c'est super comme histoire. Et qu'est-ce qu'il a eu Dieu, du coup?
Ah ben voilà, c'est
Non,
ça, on ne sait pas.
mais c'est une super histoire. Et moi, je trouve qu'effectivement, c'est une pépite, la Géorgie, parce que déjà, pour les paysages, on imagine mal, vu d'ici, qu'on est encore en Europe, mais on est au pied du Caucase avec des montagnes qui grimpent à plus de 5 000 mètres, plus de 5 100 mètres, avec des endroits complètement perdus, des petits villages complètement isolés pendant l'hiver. Il y a une région que j'aime beaucoup qui s'appelle la Svaneti. Et puis il y a 12 zones climatiques différentes en Géorgie. C'est un pays extrêmement varié, riche et intense en paysages. Moi, j'aime le décrire comme ça. Vous le feriez comme ça?
Ah, complètement. Et puis c'est ce qui est impressionnant aussi, surtout quand pour les voyageurs, pour les touristes, c'est que tous ces paysages, ces différentes météos, tout ça, c'est regroupé dans un pays qui est vraiment tout petit. Et donc on peut passer du bord de mer à Batoumi, à la montagne, à la Svaneti très rapidement. Il y a bien sûr les vignobles qui sont à 1h30, 2 heures de Tbilissi. Il y a vraiment tout un tas de paysages très 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 différents, mais tout ça dans quelques heures de voiture.
Ouais, c'est grand comme, je crois, à peu près deux fois la région. Maintenant, je crois une seule fois la région Rhône-Alpes, si mes infos sont bonnes.
Oui, enfin, c'est difficile toujours de comparer les régions, mais effectivement, c'est tout petit, mais il y a plein de choses à voir.
Jean-Bernard, il y a une région que vous préférez, vous,
Ah
là-bas?
ben, on va en parler tout à l'heure, c'est la
Ah oui,
Svaneti. Coup de
c'est
cœur
chouette.
absolu,
Ouais,
absolu.
c'est magnifique.
On ne dévoile pas tout parce que on
Ouais,
va
ouais.
l'approfondir
Ouais,
tout à
ouais.
l'heure.
Il y a des villages avec des petits donjons,
Enfin,
on va en
c'est
parler tout à l'heure.
exceptionnel.
Et puis alors surtout, il y a le sens de la bonne table et du banquet. Et ça, c'est un truc que j'ai découvert en Géorgie, c'est toute génération confondue, on aime être à table en famille et bien manger et bien boire avec en plus des cérémoniales,
Cérémoniaux,
des
peut-être. Hein.
cérémoniaux, je ne sais plus, c'est le
Des
pluriel.
cérémonies, non?
Des cérémonies qui sont vraiment très, très comme des institutions. C'est la tradition du toast. Vous pouvez nous la raconter?
Alors oui, effectivement, c'est cette tradition de la table. Alors déjà, le terme, c'est le souper. Donc ça peut dire, ça peut vouloir dire la table elle-même avec toute la nourriture qui est dessus, mais c'est aussi tous les gens qui sont autour et toute la soirée ou la journée. Alors il faut, quand on est invité chez des Géorgiens, il faut prévoir de passer quelques heures autour de cette
table. Ouais. Quelques heures, dans la tradition. Peu, ouais, c'est plus que quelques heures d'habitude.
Et donc il y a effectivement le toast qui est une part très très importante de ce souplin. Et il y a d'ailleurs le chef du toast qui est le tamada. Et le tamada, c'est vraiment celui qui guide la soirée, qui guide ces heures de fête.
C'est, et, en général, c'est le grand-père dans la tradition, ou c'est l'homme fort de la maison en général, c'est ça, non?
Alors, ça peut être, si c'est chez quelqu'un, c'est souvent effectivement le chef de la maison, donc le patriarche, on dira. Mmh. Mais parfois, ça peut être, si c'est dehors, ça peut être un invité, ça peut être quelqu'un dont c'est l'anniversaire, ça peut être choisi, ça peut être quelqu'un d'autre. Mais ce tamada, il a pour but et pour rôle de vraiment guider et de rythmer ce souplin. Et dans la tradition, alors maintenant ça se perd un peu, mais il y avait un certain ordre des toasts, donc les toasts ne se font pas n'importe comment, et donc il y a toujours un toast pour ceux qui reçoivent, pour la famille qui reçoit, pour les enfants, pour les parents, pour ceux qui sont décédés, et puis il y a toujours aussi un toast pour la patrie, pour la Géorgie, cette Géorgie dont ils sont très fiers. Et donc, il y a une série de toasts comme ça qui sont qui guident vraiment le repas. Et souvent,
et au bout du septième toast, on est très en forme.
Il ne faut pas boire entre les toasts, parce qu'il y a beaucoup de toasts. Et le vin est versé dans des petits verres. Et normalement, la tradition veut qu'à chaque toast, on finisse son verre. Donc, il vaut mieux pas boire entre les deux.
Ah oui, puis on finit cul sec, c'est ça? On verse direct.
Alors, cul sec, oui, presque, oui.
Mais d'ailleurs, Kateyvan, vous avez dit que c'est du vin, et je crois que c'est important de souligner, si mes souvenirs sont bons, c'est du vin et jamais de la bière, parce que je crois que la bière, c'est pour les ennemis.
Oui, exactement. Les toasts, c'est essentiellement avec du vin. Alors maintenant, chez les jeunes, ça se fait un peu avec ce qu'il y a sous la main. Mais la tradition, effectivement, c'est le vin. Et la bière, effectivement, c'était pour les trinquer avec une bière, c'est trinquer aux ennemis.
Ah bon.
Et moi, je me souviens de quand j'étais petite, dans les années 80-90, c'était réservé aux soviétiques.
Ah bon, ouais, d'accord.
Ah, en plus.
Le trinquer à la bière, c'était pour les soviétiques.
D'accord, donc si on est reçu chez un géorgien avec une bière, c'est que l'ambiance n'est pas un bon fixe. Restez avec nous, Kateyvan, dans un petit instant, nous continuerons à voyager en Géorgie avec vous. A tout de suite sur Europe 1.
Philippe Googler vous emmène en voyage sur Europe 1.
Philippe Googler.
Nous voyageons en Géorgie sur Europe 1 jusqu'à midi. Je suis avec Nathalie Corré, avec Jean-Bernard Carrier et avec Kateyvan Gorgestani, d'origine géorgienne, journaliste, qui nous raconte admirablement son pays. Alors, on a parlé des toasts très importants, les toasts les toasts de pain grillé, les toasts que l'on porte pendant les repas et qui sont très importants en Géorgie. Et il y a le vin, bien sûr, parce que le vin géorgien, c'est très important. La légende raconte que le vin serait né en Géorgie, puisqu'on a retrouvé des amphores avec des restes de vin d'il y a 8000 ans. Je ne sais pas si vous imaginez. Et le vin géorgien est très particulier, Kateyvan.
Oui, alors il y a plusieurs types de vins. Il y a du vin rouge, il y a du vin blanc, comme on en voit en Europe. Et d'ailleurs, maintenant, le terme est devenu, quand on commande du vin en Géorgie, c'est est-ce que c'est un vin à l'européenne ou un vin de Kvevri. Donc Kvevri, c'est le terme qui représente ces amphores. Pour ceux qui ont voyagé en Géorgie, c'est des énormes pots de terre qui sont en fait la base de la création de ce vin traditionnel géorgien, donc qui a pris le nom de cet amphore, le vin Kvevri, qui est un vin un peu orangé, un peu ambré. Donc parfois, vous verrez le terme vin ambré, vin orange. Mmh. C'est ce vin fait de façon traditionnelle. Et donc, en fait, le vin, quand il est fait dans ces amphores, dans ces Kvevri, le vin est mis dans ces Kvevri sans additifs modernes, avec les grappes de raisin, les cèpes, tout ça macère et donne donc cette couleur un peu orangée à ce vin qui est un vin blanc, mais qui est donc il y a cette couleur vraiment que moi je trouve absolument magnifique et qui a un goût extrêmement particulier, ouais. Mais qui est, quand on le boit en Géorgie avec de la nourriture géorgienne, qui est extraordinaire.
Ouais, il a un goût très particulier. C'est vrai qu'il faut commencer par le boire là-bas pour bien l'apprécier, parce qu'il est tellement différent d'une autre qu'on peut être surpris si on le boit directement en France. Mais là-bas, dans la fête, dans l'ambiance du banquet, ça va très bien. Et effectivement, il est fait dans des amphores qui sont sous terre, hein, qui sont généralement dans la maison, ou soit à la cave, soit sur les côtés. Et c'est une énorme amphore qui est dans la terre, et on verse le raisin, comme l'expliquait Kétévan, et ça reste là pour macérer. C'est vraiment très particulier. Et puis alors, puisqu'on parle du vin et du plaisir d'être ensemble et à table, il y a aussi, et là encore c'est partagé par toutes les générations, c'est les chants. C'est-à-dire qu'après le banquet, on chante, et c'est magnifique. On va vous faire écouter un petit peu ce que ça peut donner. Qu'on est à l'église.
On dirait des chants grégoriens, mais c'est des chants géorgiens.
C'est des chants géorgiens, mais c'est ce genre de chants-là que les jeunes, les anciens, tout le monde autour de la table, va se mettre à chanter à la fin du banquet. Et ça donne un côté un peu cérémonial, oui. Très, très impressionnant. Moi, ça m'a impressionné, Kétévan. Vous partagez ça ?
Moi, les polyphonies, c'est toujours un moment très, très agréable et c'est quelque chose qui me ramène vraiment à mon pays. Et alors, c'est parfois très solennel, comme là, ce qu'on vient d'entendre. Ça peut être beaucoup plus enjoué. Et c'est vrai qu'en Géorgie, un grand nombre de gens, notamment les hommes, parce que c'est essentiellement les hommes qui chantent ces polyphonies, se mettent à chanter souvent après quelques verres. Il y a toujours une guitare quelque part et il y a ces chants. Et ça se transmet effectivement de génération en génération. Nous, dans notre famille, la blague, c'est qu'on est très, très géorgien. On adore tout ce qui est géorgien. On parle la langue, mais il y a une chose qui a été ratée dans la famille, c'est de pouvoir chanter, parce qu'il n'y en a aucun qui arrive à chanter. Et c'est vraiment un drame familial, mais c'est vrai que ces chants, c'est qu'ils soient solennels dans les églises ou dans les banquets, c'est quelque chose de très particulier. Et la seule chose qui s'en approche un peu, c'est un peu les chants polyphoniques corses.
Oui, ça ressemble.
Et il y a un lien. Moi, j'appelle les Corses un peu les cousins des Géorgiens parce qu'il y a vraiment quelque chose de très, très similaire.
Ouais. Et moi, ce qui me frappe toujours, c'est que ce n'est pas un truc d'ancien. C'est que les jeunes aussi chantent. Ils aiment ça et ils sont fiers de chanter.
Oui, c'est vraiment quelque chose qui s'est transmis de génération en génération et qui n'a pas été perdu. Et je pense que c'est lié effectivement beaucoup à cette table, à ce soupra, parce que ça, pareil, cette tradition du toast, des différents thèmes du toast et de cette tablée, elle a aussi été gardée dans la tradition, même chez les jeunes. Alors effectivement, c'est beaucoup moins codifié chez les jeunes, mais moi, je me souviens de soirées en boîte de nuit à 4 heures du matin. Alors, peut-être qu'ils ne chantent pas les chants polyphoniques à ce moment-là, mais par contre, il y a bien des toasts et il y a toujours un toast à 4 heures du matin pour la belle Géorgie, notre patrie. Donc, c'est vraiment les traditions. C'est assez drôle dans ce pays. C'est que c'est un pays qui est maintenant tourné vers la modernité. Les jeunes voyagent beaucoup, partent étudier à l'étranger, mais les traditions, les quelques thèmes très forts, donc la table, le chant, les traditions géorgiennes, ça se transmet vraiment même chez les jeunes.
Ouais. Alors, la Géorgie, qui est un tout petit pays, on l'a dit, comment se fait-il qu'il y ait cette fierté, cette identité forte, cette fierté d'être géorgien ? D'où ça vient, ça ?
Alors moi, je me demande toujours si c'est la fierté qui vient des invasions ou le fait d'avoir survécu aux invasions qui est parce qu'on était si fiers. Ouais. Parce que la Géorgie a été au cours des siècles vraiment envahie par à peu près tous les peuples qui étaient autour. Et pourtant, cette langue qui est totalement unique, parce qu'elle n'est pas indo-européenne, elle n'est pas slave, elle n'a vraiment aucun lien avec les autres groupes de langues, un alphabet unique, et une langue qui est quand même très très compliquée à parler et qui est parlée par 4 millions de personnes aujourd'hui à peu près. Au cours de ces siècles, il y a quand même eu cette force, cette fierté probablement des Géorgiens qui ont refusé, malgré toutes les invasions, de lâcher ce qui faisait leur qualité unique. C'est le Géorgien dans sa langue, le Géorgien dans ses traditions. Et c'est pour ça, je pense aussi, que la tradition se perpétue, c'est que les jeunes ont cette fierté aussi, et ils savent que garder cette fierté et garder cette Géorgie unique, ça passe par quand même conserver quelques éléments très importants de ce qui fait le géorgien.
Merci beaucoup, Catherine. On pourrait parler de la Géorgie avec vous pendant des heures. Merci de nous avoir fait partager un petit peu de votre perception très personnelle de la Géorgie. Je rappelle qu'on peut vous retrouver sur France 24, où vous couvrez l'actualité non pas géorgienne, mais américaine. Voilà, ce qui n'a rien à voir, mais c'est votre parcours et votre aventure à vous. Merci, Ketevan.
Merci beaucoup.